Je partirai du constat donc d'une articulation historique concernant une génération d'artistes, d'intellectuels et peut-être particulièrement un certain nombre de membres de la nouvelle vague pour lesquels le cinéma a offert l'opportunité de se soustraire en partie à l'autorité traditionnelle de la littérature, à l'autorité des héritages culturels que certains, pour commencer, avaient cherché à endosser. Je montre simplement la couverture de leur livre. Écart ou soustraction, cette possibilité, elle est explicitée à plusieurs reprises par Jean-Luc Godard. Et je cite ici donc un entretien, son entretien donc avec Duras précisément. J'ai dû avoir une délivrance vers 20 ans après l'université. J'ai vu que le dire n'était pas le chef de file à suivre automatiquement. Dès le début des années 50, s'effectue dans ces textes critiques un double mouvement assez fluide et en même temps qui me semble assez complexe, qui s'opère en faveur de la promotion du cinéma. Il s'agit de donner une légitimité culturelle à une pratique remplaçant la littérature. Il s'agit de faire entrer le cinéma, je cite, dans l'histoire de l'art. Cet effort, le pillage des bibliothèques, va y contribuer très fortement. Dans ces textes critiques, eh bien, les grands textes et les grands auteurs, ce sont surtout des noms propres que l'on trouve dans ces textes-là, ne sont pas cités pour eux-mêmes, ils vont être instrumentalisés au service d'une élévation du cinéma. Sur les 82 textes qui sont réunis dans les années cahiers, donc le premier volume, enfin c'était l'édition Flammarion, peu importe, donc qui sont réunis dans ce volume-là, je vais simplement citer les noms qui apparaissent dans ces textes. Voilà, donc je fais la liste alphabétique. Aragon, Liberty, Balzac, Baudelaire, Bazin, Bernanos, Béroule, Bossuet, Brecht, Céline, Cervantes, Chateaubriand, Agatha Christie, Cocteau, Corneille, Defoe, Diderot, Dostoïevski, Faulkner, Flaubert, Gide, Giono, Giraudoux, Goethe, Cronier, Thomas Hardy, Joyce, La Bruyère, Laclos, Larbeau, Lermontov, Malraux, Marivaux, Maupassant, Meredith, Molière, Monterland, Moravia, Pirandello, Poe, Proust, Queneau, Radiguet, Ramu, Rimbaud, Ronsard, Rousseau, Sartre, Walter Scott, Mademoiselle de Scudéry, Shakespeare, Simenon, Madame de Staël, Stendhal, Valéry. Un dictionnaire, donc, ce qu'on comprend, donc, c'est qu'une sorte de dictionnaire de la littérature aide à la construction d'un dictionnaire du cinéma. On remarque au passage que Jean-Luc Godard, donc, utilisant la littérature pour se débarrasser de la littérature, fait en même temps œuvre d'écrivain. Il s'agira tout d'abord et tout de suite donc d'écrire le cinéma. Alors j'ai travaillé à une époque donc sur ces formes-là d'écriture, je ne vais pas m'y arrêter. Je soulignerai seulement la dimension, disons, créative du travail d'écriture de Godard dans les années 50. Il s'agit à chaque fois de tout réinventer. C'était, dit-il dans un autre entretien, je cite donc, une activité littéraire à part entière. Les cahiers du cinéma accueillent un grand nombre de ces textes et l'importance qu'on peut accorder à ces textes s'autorise des rassemblements en volume qui sont constamment republiés. Ce qui est vraiment remarquable à la lecture de ces textes-là aujourd'hui, c'est l'inversion, la conversion des valeurs qui s'opèrent dans le temps et le geste même de l'écriture. Cette écriture un peu compassée, mais plus joueuse et moins passée cependant que celle de Romer, cette écriture très littéraire qui prend explicitement ses modèles au XVIIIe siècle, cette écriture fait de la littérature le combustible de son argumentation. Je prendrai simplement un exemple de cette instrumentalisation qui s'opère d'une façon astucieuse et ambiguë. Je vais citer un tout petit passage donc, d'un texte qui est consacré à Mankiewicz. Les grincheux affirment volontiers que le cinéma est inférieur au roman, pour ne pas dire à la littérature. Il lui reproche de manquer de Stendhal, de Proust, de Giraudoux. Ils prétendent que le jour où il en trouvera, tout ira bien. Mais il se trouve justement qu'avec Joseph Mankiewicz, on se trouve en présence d'un Giraudoux de la caméra. Voilà, donc on voit comment concrètement les grands noms de la littérature sont utilisés pour faire la promotion du cinéma. La séparation des royaumes est claire, mais ils peuvent présenter des conflits d'extension et connaître peut-être aussi des incidents de frontières. Donc j'en viens à un deuxième point, pour le coup, voilà. D'abord, Jean-Luc Godard alerte volontiers sur cette tendance toxique qui consiste à rabattre ce qui relève de l'image et du son sur la lettre, le mot, le texte. Mais c'est beaucoup plus tard, le cinéaste que je vais citer, il n'écrit plus alors de textes critiques, mais il essaye toujours de faire des films. Je cite une lettre d'ailleurs, « me trottait dans la tête une réflexion d'Alain Sardes, prétendant que les producteurs me donneraient tout ce que je voulais si seulement je faisais des films un peu lisibles. Je ne voyais pas pourquoi tous ces braves gens ne disaient pas « visibles ». Le Sina, donc, dans la même lettre au cahier, profite de cette anecdote pour organiser un sombre combat, je cite encore, entre le voir et Sa Majesté le dire. Fin de citation. Pour le cinéaste, donc, le langage verbal, par ses approximations, ses assimilations, pollue le cinéma, la réflexion sur le cinéma et aussi, éventuellement, les possibilités d'en faire. D'une certaine façon, sa remarque sur la caméra stylo d'Alexandre Astruc, cette remarque laisse entrevoir ce que le cinéma aurait pu être s'il n'avait pas été tenu en lisière par le langage verbal et ou les arts du sens. Le texte bien connu d'Alexandre Astruc, « Naissance d'une nouvelle avant-garde » : la caméra stylo, qui prétendait dire la grandeur, l'autonomie, les possibilités du cinéma, du même geste, qui est une intervention dans le langage, il s'agit de faire un mot avec deux mots pour le coup, du même geste, maintenait le cinéma sous la tutelle de la littérature. L'expression « caméra stylo », forgée pour exprimer la liberté du cinéaste, exhibe inversement la captivité où le cinéma est confiné tant que on le pense à travers la littérature. Donc c'est la fameuse phrase que l'on trouve donc dans le deuxième volume des histoires du cinéma. Et la caméra stylo, c'est Sartre qui a refilé l'idée au jeune Alexandre Astruc pour que la caméra tombe sous la guillotine du sens et ne s'en relève pas. Cependant, comme on l'a vu, Jean-Luc Godard incorpore beaucoup de littérature dans son cinéma. Ce sont les livres dans ses films, on en a vu. Je ne dirai pas donc sur ce point, je rappellerai simplement que la littérature au cinéma change de nature, elle change de modus operandi, elle change de fonction, et de ce fait ne doit plus être désignée nécessairement comme telle. Les raisins de Zeuxis ne sont pas des raisins, mais des figurations de raisins. Les oiseaux peut-être s'y tromperont. Les phrases d'un roman, dites, lues, montrées dans un film, prennent une dimension totalement différente. On trouve donc de la littérature aussi dans ces films sous la forme de performances, les lectures filmées par conséquent. C'est donc dans un entretien de 1967 qu'il prononce cette phrase qui me semble assez intéressante de ce point de vue. Finalement, je crois que ce qu'il y a de plus extraordinaire à filmer, ce sont des gens qui lisent. Alors évidemment, des lecteurs, il y en a partout dans ces films. J'y reviendrai un tout petit peu un peu plus tard. Sous la forme aussi de superpositions, ce sont parfois des films qui s'appellent livres, le livre d'images. Ce sont parfois des livres qui s'appellent film socialisme est aussi un livre, ou bien des objets littéralement hybrides, puisqu'ils résultent du croisement entre les espèces. Alors, un hybride qui m'amuse beaucoup, mais qui je trouve aussi très intéressant. Je vais en venir, pour le coup, à quelques pratiques, disons, éditoriales d'hybridation qui sont extrêmement actives au moment où Jean-Luc Godard commence à écrire et à filmer. Alors, le travail de Godard pose des questions de frontières, me semble-t-il, entre les catégories, entre les objets, les médias, les langages. On peut se demander où s'arrête le signe conventionnel, par exemple alphabétique, et où commence l'image qui ferait trace, empreinte, analogie. Je ne suis pas capable de répondre précisément à ces questions. J'ai tendance à suivre les critiques et théoriciens qui diagnostiquent une sorte de continuité entre les différentes modalités de représentation. À cet égard, le dernier livre de Jean-Christophe Bailly m'a beaucoup intéressé, qui s'intitule « L'imagement », dont le titre donc dit précisément la transformation de quelque chose en image. Ce que je ferais remarquer pour commencer, c'est que Godard commence à faire des films au moment où l'édition française, dans son acception la plus générale et en direction de tous les publics, expérimente. expérimente en particulier le croisement des disciplines. Et je vais prendre un exemple très concret pour contextualiser de ce point de vue-là, qui me semble important. Je vais prendre l'exemple de la collection L'Air du Temps. La collection L'Air du Temps, qui est fondée par Pierre Lazareff aux éditions Gallimard, cette collection est un véritable carrefour critique, théorique, linguistique et disciplinaire extrêmement actif dans la vie culturelle et intellectuelle française. Alors, on peut trouver des éléments qui relèvent de la sociologie des groupes ou de la sociologie des médias. On peut trouver aussi des ouvrages qui mettent en relation la littérature et le cinéma. On peut trouver aussi des ouvrages qui relèvent davantage de l'ethnologie ou de la politique. Bon. À cet égard, il faut d'abord souligner peut-être ce qui continue, c'est-à-dire la transformation des films en publications qui concrétisent des rapports texte-image extrêmement complexes. Parmi ces publications auxquelles je fais allusion, les appellations sont assez instables. Hein. On parle de scénarios, de continuité dialoguée, de films racontés, de ciné-romans, de scénarios, etc., etc. Et je vais simplement donner un aperçu ici de ce que l'on appelle comme genre les films racontés, et qui connaissent un certain nombre de collections extrêmement fécondes donc dans l'édition française. Ce sont des choses comme Mon Film, des magazines en fait, qui peuvent s'intituler Mon Film, Votre Film, Notre Film, Ciné Revue, Ciné Monde, Les Bons Films, L'Écran Français, etc. Je prends simplement un exemple avec Mon Film. On est en octobre 1951. Cette sorte de publication, de film raconté, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, puisque on pratique plus forcément cette sorte-là de précisément de traitement du cinéma. Bon, et je me permets de leur accorder un peu d'importance, précisément aussi parce que ils s'adressent également à des spectateurs qui ne lisent pas forcément de livres et qui, dans le courrier des lecteurs, vont appeler ça des livres. Donc ce sont aussi des pratiques de lecture un petit peu particulières qui sont à prendre en considération. Voilà. Alors, donc ici, vous avez un exemple. Donc vous voyez des images donc, qui sont extraites, extrapolées, ou des images donc, de plateau de ce film en particulier. Et donc un récit qui se fait, en fait, à l'imparfait et au passé simple, et des légendes qui sont mises aussi à l'imparfait et au passé simple. Bien. Alors, j'ai parlé de l'extrême complexité énonciative de ces publications qui conjuguent ou superposent entre texte et image des ordres temporels, des ordres aspectuels, des ordres ontologiques qui sont incompatibles. Mais cette complexité, elle est difficilement identifiable parce que de ces publications, justement, la reconnaissance culturelle est très faible. Je rappellerai la remarque très condescendante que fait Alain Robbe-Grillet sur cette sorte-là, donc de film raconté, à un moment où lui est en train de décrire en quelque sorte le trait de génie qui est celui qui a présidé à l'écriture de l'année dernière à Marianne Bad, c'est-à-dire prendre un trait grammatical propre au cinéma pour construire l'ensemble de son film. C'est simplement pour la parenthèse que je fais cette citation de l'introduction donc de l'année dernière à Marianne Bad, la version donc textuelle en ciné-roman. Alors que la littérature dispose de toute une gamme de temps grammaticaux qui permet de situer les événements les uns par rapport aux autres, on peut dire que, sur l'image, les verbes sont toujours au présent. La parenthèse s'ouvre, ce qui rend si étrange, si faux, ces films racontés, c'est le genre donc, des publications spécialisées où l'on a rétabli le passé simple cher aux romans classiques. D'autre part, des collections ou des séries nouvelles apparaissent chez les grands éditeurs. Donc ça, c'est tout autre chose, donc pour le coup. Par exemple, donc chez Buchet-Chastel, par exemple également chez Julliard. Et alors, je ne vais pas les ouvrir avec vous, ces livres-là, mais il faut considérer que ce sont des publications assez luxueuses. Elles bénéficient d'un très haut niveau d'élaboration. On fournit en effet le découpage et les dialogues, mais on fournit en plus dans ces livres des analyses et des entretiens. Et il y a un très gros travail qui est fait particulièrement pour ce volume-là, donc sur la mise en page et l'utilisation des rapports texte-image dans le livre lui-même. Bien. Alors, je vais prendre un exemple qui nous rapproche de Godard avec la collection Roman Choc, dont vous apprécierez précisément la créativité. La collection Roman Choc, qui opère donc, pas forcément à l'intérieur, mais un gros travail sur les seuils. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Et je voulais aussi évoquer rapidement ce qui se passe chez Gallimard, la série que vous voyez à l'écran. Donc, cette série que vous voyez à l'écran rassemble sous un même vêtement, un vêtement qu'on appelle jaquette, des éléments extrêmement hétérogène, puisqu'il y a en même temps des scénarios, au sens strict du terme, et en même temps des romans qui ont été adaptés au cinéma. Alors, par ces remarques superficielles, je ne veux pas être soupçonné cependant de frivolité, mais dans la mesure où il conditionne entièrement la lecture, ces éléments de surface doivent être pris au sérieux. Je vais prendre deux autres exemples qui marquent comment insidieusement des hybridations vont s'opérer avec donc couverture et jaquette de Cléo de 5 à 7, donc c'est marqué sur scénario sur la couverture, et la première chose que fait Agnès Varda dans son introduction, c'est de récuser le terme de scénario pour lui substituer le terme de continuité dialoguée. On est en 62, 10 ans plus tard, voilà ce qui se passe par rapport à deux films de Marguerite Duras. Vous voyez que les indications de genre ont disparu et que les hybridations, pour le coup, peut-être s'opèrent de façon insidieuse. Je prends ces exemples pour montrer comment des décisions éditoriales contribuent à flouter les frontières entre les genres, scénario-roman par exemple, mais aussi les frontières entre les espèces, cinéma, littérature. Chez Gallimard, on observe un mélange de prudence et d'ambiguïté. La jaquette est le vêtement amovible du livre, temporairement déguisé de cinéma, et sous ce vêtement, que l'on peut enlever soi-même, mais qui de toute façon s'abîme au fil du temps, la collection blanche retrouve sa prestigieuse virginité. Sur la frontière entre littérature et cinéma, on voit donc que les échanges et les négociations sont à la fois intimes et intenses. On assiste à la démultiplication des modalités d'existence des œuvres, des objets, des avatars. La séparation des groupes, des familles et des espèces est contestée par la démultiplication des hybrides et l'ouverture de catégories, de collections, de séries vouées à la mise en culture de ces hybrides. J'en viens donc à un autre point, faire des images avec des mots. Dans ce contexte, on peut avoir le sentiment que Godard est resté fasciné, mais en même temps très occupé, par la question du trajet référentiel reliant un mot à une chose et les phrases du monde que l'on prononce au monde qu'elles décrivent et qu'elles constituent. Je vais montrer juste simplement un tout petit passage de Made in USA.
Ça faisait 40.
Ça vous irait de rendre un service, vous qui savez si bien compter?
Oui, mon vieux.
Je voudrais que vous comptiez les objets qui se trouvent dans mon bar, c'est pour l'inventaire.
C'est quoi un bar?
Oui, oui. Un bar, c'est un endroit où, enfin, je veux dire, c'est une pièce. Enfin, c'est-à-dire, c'est plusieurs personnes réunies sous le regard d'un barman. Et puis, c'est aussi une salle dans laquelle on verse des liquides. Enfin, c'est-à-dire, c'est à la fois plusieurs personnes réunies sous le regard d'un barman. Et puis, c'est aussi une salle.
Un bar ne peut pas être deux choses à la fois.
Voilà. Pour le problème, donc, du trajet référentiel entre les mots et les choses. Le jeu sur les mots, par conséquent, modifie leur statut. Il s'agit de les soustraire aux fonctionnalités de ce que Sartre appelait le langage instrument, de déjouer leur caractère conventionnel de signes alphabétiquement constitués pour utiliser leur possibilité figurative. Je vais prendre un exemple de cela, plus concret encore, ou plus direct encore, dans la discussion de Marguerite Duras avec Godard en 1987. Soin de ta droite vient de sortir donc sur les écrans, tandis que Duras vient de publier un roman qui s'appelle Émilie L. Voilà ce que dit Godard là-dessus. Quand j'entends Émilie L, je vois le L comme E-L-E. Je ne comprends pas ce E-L-E, je ne cherche pas à comprendre, j'en fais un tableau qui est une lettre. Et après, ça me rappelle un tableau de Duchamp. J'ai compris une fois ce tableau, la mariée mise à nu par ses célibataires même. Ce même m'a intrigué, je l'ai compris une fois par les mots, puis je l'ai perdu. Duras réplique, le L, c'est la vibration de l'air qui ne s'arrête pas tandis que le mot se termine. Et il réplique, c'est L, A-I-L-E, aussi. Bon, cette petite négociation m'intéresse parce qu'elle organise une réflexion très concrète sur le détournement et l'appropriation du langage, sur la révision du partage entre convention et figuration, qui est très sensible dans son rapport aux mots et aux livres. Dans son travail sur la dimension physique des mots, on trouve aussi bien dans ses films des inscriptions, on nous l'a montré, des inscriptions imprimées que des inscriptions manuscrites, marquant précisément cette double appartenance au figuratif et au conventionnel, à l'image et au signe. On pourrait dire aussi, pour suivre Agamben, au commun et au propre. Je cite là pour le coup un petit passage de la communauté qui vient, théorie de la singularité quelconque, où il parle précisément de ce caractère frontalier du geste manuscrit. Voilà ce qu'il dit sur ce geste. Le ductus de la main passe continuellement de la forme commune des lettres au trait particulier qui en identifie la présence singulière, sans que, malgré la minutie du graphologue, l'on puisse en aucun point tracer une démarcation réelle entre les deux sphères. Bon, donc voilà. Donc pour le coup, il statue sur l'impossibilité de séparer, de faire une frontière nette entre le commun et le propre. Alors, évidemment, on en a des exemples qui ont été analysés ce matin. Donc, par exemple, dans Pierre le Fou. Et puis, on peut noter aussi que finalement, la seule phrase de Duras lue par Dutronc Godard dans « Sauf qui peut la vie », c'est une phrase manuscrite. Je fais des films pour occuper mon temps, etc., etc. Lorsque Duras dit à Godard « Tu ne tiens pas le coup devant l'écrit », on voit très bien ce qu'elle veut dire, mais je pense au contraire que la manière pour Godard de se confronter à la lettre, au mot, à la phrase, à la langue, sa manière à lui consiste précisément dans cette sorte de bricolage où se définit son réglage à lui entre le commun et le propre, le genre et l'individu, le personnel et l'universel. Il faudrait sans doute se pencher ici sur toutes les publications plus furtives de morceaux de scénarios combinant précisément des matériaux hétérogènes et qui opèrent un réglage personnel entre alphabet et figure d'un côté, signe et image de l'autre côté. Bon, ces choses-là, cette sorte de publication qui pourrait mériter justement un intérêt spécifique. J'en viens à présent aux publications plus officielles qui sont générées par Jean-Luc Godard et par les films de Jean-Luc Godard. Donc je dois peut-être m'excuser de mes efforts là de contextualisation, dont j'espère qu'ils n'ont pas été trop longs. Ils avaient pour ambition de défaire la hiérarchisation des objets culturels, de défaire l'empire de la chronologie et de la généalogie, ce qui revient à remettre en question l'autorité de la ligne droite et de la ligne d'écriture. Il me semble donc important d'inscrire les travaux de Godard dans des séries, des ensembles, des familles, des collections qui en déterminent fortement la singularité. Publier un film, c'est le soustraire à une catégorie d'objets pour l'incorporer à d'autres espèces d'objets, d'autres familles, d'autres cultures et d'autres traditions. Autant dire tout de suite que je ne traite pas les novélisations et autres publications comme des produits dérivés, ou comme des manifestations, disons, résiduelles, mais comme des objets de plein droit que seuls des réflexes, disons, domestiques ou protectionnistes classent, déclassent et dégradent. Alors, l'écriture critique, je n'en parlerai pas ici. J'ai déjà travaillé dans d'autres cadres. Je vais davantage m'intéresser à ces phénomènes de migration et de métamorphose que constitue la publication des films. Pour ce qui concerne la publication de ses propres films, on peut dire qu'une graduation d'objets se présente appartenant à des genres et des catégories bien distincts. Je vais prendre quelque chose que évidemment tous les cinéphiles connaissent avec, par exemple, les publications qui se font dans l'avant-scène cinéma. Ici, je prends le cas pour le coup de « À bout de souffle ». Donc en 1968, j'ouvre simplement le commencement de ce volume, voilà. Et ce qui est remarquable, je ne sais pas si on peut lire, mais ce qui est remarquable à l'entrée du volume, c'est qu'on assiste à des sortes de turbulences dans la Dans la désignation des images en particulier, on ne sait pas très bien si elles viennent de, si ce sont des photogrammes ou bien si elles ont, ce sont des photographies de plateau. Donc il y a ici à gauche des images légendées et qui font que finalement les frontières entre le dedans et le dehors du film ou du volume ici représenté sont assez difficiles à établir. Dans cette collection se met en place le régime énonciatif traditionnel de la collection, même si pour l'instant les plans ne sont pas numérotés. Description des plans, il n'y a aucun effort d'évaluation, il n'y a aucun effort de réécriture. Il s'agit d'approcher l'objectivité d'une description du film qui sera au moins une objectivité comparative. Ce film est administré par la syntaxe de la revue. D'un point de vue stylistique, une fois publié, ce film-là, donc À bout de souffle, ressemble autant à La princesse de Clèves de Jean Delannoy, numéro 1 de la série, que à La poursuite impitoyable de John Ford, numéro 337 de la série. On notera que quelques tentatives de changement de catégorie visent à augmenter physiquement la lisibilité des films et à augmenter sans doute aussi numériquement le lectorat des films en question à travers une sorte de montée en gamme des objets éditoriaux. Ce sera le passage de l'avant-scène cinéma, donc la transformation, hein, le changement de catégorie qui s'opère, donc aux éditions du Seuil s'ouvre une nouvelle collection de poches qui constitue un autre point d'articulation du carrefour éditorial dont je parlais tout à l'heure. Cette collection cherche à faire en même temps de l'histoire et de l'actualité. Il s'agit donc de conjuguer, à l'intérieur, donc de conjuguer la rigueur descriptive de l'avant-scène, dont cette édition est extrapolée, donc cette rigueur descriptive, la commodité en même temps d'un format plus maniable, et puis l'agrément d'une répartition plus régulière des images qui sont numérotées, etc. Donc la circulation se fait mieux dans ce type d'objet. On ajoute également des éléments documentaires, photographie, filmographie, scène abandonnée, etc. On note au passage que cette collection, qui cherche en même temps à faire de l'histoire, connaîtra seulement 7 titres. Il y a Buñuel, Eisenstein, Godard, Renoir, Truffaut, Wells, et le 7e, je ne l'ai pas identifié. Alors, autre catégorie, c'est évidemment les novélisations qui sont faites aux éditions Segers. Et donc, À bout de souffle, comme vous l'avez vu, connaît une novélisation dans cette collection Roman Choc. Il s'inscrit là dans une autre tradition, pour le coup, un autre genre, une autre famille. J'ai pris deux exemples, dont un est un petit peu amusant à gauche, puisque c'est la novélisation d'une adaptation, pour le coup. Hein. J'irai cracher sur vos tombes. J'alerte aussi sur les précautions qui sont prises sur la couverture pour qualifier l'appartenance donc de cet objet à une catégorie précise. Bien. Je montre donc, pour le coup, comment se présente le livre fait par Francolin. Couverture et quatrième de couverture, puis les rabats, puis donc le prière d'insérer qui est d'une extrême complexité avant l'ouverture, donc l'arrivée, donc le commencement du roman lui-même. Bien. Ce qui m'intéresse dans le début de cet ouvrage, c'est que l'hybridation des espèces ou l'intermédialisation, cette hybridation des espèces s'opère en bordure, en lisière, on va dire dans les zones de prise en main de l'objet, autrement dit sur les seuils du livre. Les seuils du livre, dans le sens où l'entendent aussi bien Gérard Genette, dans son livre consacré au seuil et publié aux éditions du Seuil, seuil du livre au sens où l'entend également Jean-Christophe Bailly dans le premier chapitre du livre que j'évoquais tout à l'heure, donc l'imagement et ce premier chapitre qui est titré « Le travail du seuil ». Au lieu de marquer nettement la séparation, donc, dans cette sorte de dispositif, au lieu de marquer nettement la séparation entre le monde du livre et le monde du cinéma, tout le matériel éditorial est engagé pour ménager des intersections entre les médiums, une véritable continuité. Ce sont les inscriptions en couverture, indications génériques, les rabats donc que vous voyez ici. C'est encore la quatrième de couverture qui est extrêmement bavarde. La quatrième de couverture qui est extrêmement bavarde mais qui ne comporte qu'une fois le mot « film ». Pour décrire une histoire en quelque sorte transgénérique. Voilà. C'est également donc le prière d'insérer qui décrit comment quel est le substrat donc pour le coup de ce roman. Du point de vue du style, Alors, si on ouvre, pour le coup, il y a aussi des cahiers d'images qui sont insérés de temps en temps. Bon, du point de vue du style, on pourra noter, alors je parle de l'écriture littéraire, pour le coup, que la caractéristique principale de cette sorte d'hybridation est la neutralisation des particularités. L'écriture, au sens où l'entendent les lecteurs de romans, cette écriture, elle est d'une lisseur étonnante, laissant penser que, du film, on a supprimé ce que Roland Barthes appelle le filmique. Et aussi que, du livre, on a supprimé ce que Marcel Proust appelle le style. Je signale au passage la novélisation en vers de Vivre sa vie, donc par Jan Bettens, donc en 2005, où précisément l'auteur adopte une stratégie inverse. Il abandonne complètement l'histoire et les dialogues pour écrire cette novélisation à partir des impressions laissées par le film de Godard. Bon. Alors, pour ce qui concerne à présent les ciné-romans photos, je ne vais pas feuilleter avec vous le nuancier des variations génériques. D'un point de vue pragmatique, on peut dire que le ciné-roman photo est un genre apparenté au film raconté. Mais c'est surtout un croisement génétique et générique entre le roman photo, que tout le monde connaît, donc le film raconté, dont j'ai montré quelques pages tout à l'heure. Là, je n'en parlerai pas, je renverrai aux travaux de Jan Bettens sur ces questions. Il se trouve que ces dernières années, le genre ciné-roman-photo a subi un processus de légitimation, de patrimonialisation aussi, qui n'a jamais touché le film raconté, hein, comme film complet, ce genre de choses, ou mon film, etc. Pour autant, cet anoblissement me semble relever, parmi les élites culturelles, un petit peu de l'artifice médiatique et commercial concernant un genre difficile à promouvoir. On se souvient des remarques de Roland Barthes sur la question et sur le roman photo à proprement parler. On cite en général l'expression de son mépris pour ce qui se fait dans le genre du roman photo. On oublie que Roland Barthes, dans son texte, donc dans L'obvi et l'obtus, accepte d'avance l'idée d'un développement intéressant du genre. L'idée, bon, que ce qu'on fait, c'est pas très bien, mais voilà, malgré tout, il y a des possibilités dans ce genre particulier. Je cite un tout petit passage. Je suis persuadé que ces arts, entre guillemets, nés dans les bas-fonds de la grande culture, possèdent une qualification théorique et mettent en scène un nouveau signifiant, apparenté au sens obtus. Bon, reste que À bout de souffle a fait l'objet de plusieurs publications en ciné, roman, photo, qui sont sur des formats très très différents. Ici, le ciné, roman, photo se fait donc sur deux pages pour raconter À bout de souffle, avec 27 photographies. Et ce sont d'autres formats qui sont pris dans les autres publications. Voilà, avec votre film, par exemple, qui donc présente 54 pages pour raconter À bout de souffle, ou bien le plus sophistiqué, c'est le travail de Raymond Cochetier qui est utilisé, le travail du photographe, donc spécialiste du roman photo pour le coup, qui fait le voilà, c'est lui qui fait le travail donc pour le coup d'assemblage également. Et puis la plus développée, c'est celle que j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que mon scanner était trop petit, voilà. Mais donc ce sont ces bandes qui sont publiées en 50 livraisons à partir du 13 juin 1969. Il y a en tout 400 photographies pour raconter À bout de souffle avec le système donc d'incrustation de cartels et de phylactères comme dans le roman photo. Bon, alors on devine que le régime de lecture n'est pas le même selon le format des publications et le nombre d'images, hein, puisque entre 27 photographies sur deux pages et 400 photographies réparties comme c'est marqué ici, eh bien, l'attention accordée aux épisodes se modifie. On peut noter au passage que ces ciné-romans photos ne comportent sur certaines pages aucun élément commun avec le film. Ce sont des photographies faites séparément. Les points de vue sont modifiés. Les dialogues sont remaniés. Alors, j'en viens à présent quelques instants à un autre genre, qui est celui de la phrase. Prêtez attention donc à des livres que Godard publie aux éditions POL à partir des années 90. La formule adoptée, qu'on peut qualifier de tout à fait originale, présente dans une facture de type poétique les phrases donc, qui sont extraites de ces films et rassemblées sous la catégorie générique sous la catégorie générique de phrase, puis de phrase sortie d'un film. Alors, cette catégorie-là, la phrase, elle n'est pas si simple qu'elle pourrait le paraître. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? On va la prendre tout de suite. Voilà.
Ben, vous accumulez des mots en vrac, c'est pas tout, il faut en faire quelque chose.
En faire quoi? Barman ou Paul?
Que fait-on avec des mots, mademoiselle?
C'est vraiment indispensable?
Ah, je le crois profondément.
Ben, si vous y tenez, je vais essayer de faire des phrases, mais j'aime pas ça.
Et pourquoi vous n'aimez pas faire des phrases?
Parce que les phrases sont des paroles inutiles ou vides. C'est écrit dans le dictionnaire.
Mais c'est aussi écrit dans le dictionnaire que des phrases sont des assemblages de mots qui donnent un sens complet.
Voilà, donc pour savoir ce que c'est qu'une phrase, bien. Alors, si la critique cinématographique ne prête pas forcément attention à ce que Antoine Debecq appelle, en mettant des guillemets, les produits dérivés, il n'en va pas de même de l'éditeur, qui s'est montré capable de détacher du film les textes accueillis comme de véritables poèmes. Je le cite, l'éditeur, c'était un travail de versification, qui ne redoublait pas le film, mais lui répondait dans une sorte d'écho poétique. Fin de citation. Isolé donc des images filmiques, les mots, organisés par ailleurs donc dans une mise en page très sobre, les mots donc prennent une autonomie littéraire que ne leur accorde évidemment pas la publication normale des scénarios ou des découpages. Ce qui me semble intéressant dans le travail de Godard par rapport à ça, c'est l'effort de soustraction opéré à l'étape éditoriale. Il s'agit non pas de restituer, de restaurer, de transcrire un matériau verbal emprunté au film, mais plutôt d'instaurer la force imageante des mots et des phrases. On peut noter que la dégrammaticalisation qui est opérée, donc, parce que Paul Ochakowski-Lawrence appelle la versification, cette dégrammaticalisation, elle est décisive pour libérer le lecteur de ses propres réflexes. Cette série vient de commencer lorsque Pierre Assouline l'interroge, Godard, sur les petits livres qu'il vient de publier. Voilà ce qu'il répond, pas des livres, plutôt des souvenirs de films, sans les photos et les détails sans intérêt, la voiture arrive, etc. Que des phrases prononcées, ça donne un petit prolongement, on y trouve des choses qui ne sont pas dans le film, ce qui est assez fort pour un souvenir. Ces livres ne sont ni de la littérature ni du cinéma, des traces d'un film proche de certains textes de Duras. Il faut noter que la mise en page détermine une prosodie très particulière. Le découpage des mots n'obéit pas nécessairement au découpage grammatical attendu et impose, de ce fait, une respiration personnelle ou approprié, comme la diction de Julie Delpy dans Les histoires du cinéma lorsqu'elle s'empare du voyage de Baudelaire. Quelques secondes simplement pour mesurer un petit peu ce qui se refait dans la diction.
Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit.
Voilà, il s'agit très exactement de phraser, je reprends la quatrième de couverture du volume que j'ai montré tout à l'heure, phraser, jouer en mettant en évidence par des respirations le développement de la ligne mélodique. Alors, dans les livres que je viens de montrer, donc pour le coup, le choix de la police de caractère, on abandonne la plantain pour l'optima, le choix de la police de caractère pourrait sembler contradictoire, elle me semble au contraire corroborer les options du cinéaste. Le choix d'une police plus lisse, plus moderne, contribue au déshabillage des mots, j'emprunte l'image à Duras, pardon, contribue au déshabillage des mots et à la libération de leur force propre. Il s'agit d'échanger la valeur traditionnelle d'une typographie ancienne contre la force vive d'une typographie moderne propre à augmenter le désordre poétique du langage. Ce que l'on constate par ses choix, c'est que Jean-Luc Godard donc entre en littérature en traçant lui-même sa place dans l'histoire de la littérature et de façon plus subtile encore dans l'histoire de l'édition. Je suppose qu'on a dû rappeler hier qu'il est le neveu de Maximilien Vox, donc le père de la terminologie actuelle des typographies. Voilà. Alors, quelques mots sur les histoires du cinéma qui constituent donc pour le coup aussi une aventure éditoriale exclusive. Les rapports texte-image s'y ordonnent encore d'une manière parfaitement singulière et totalement inédite dans la collection blanche dont on a vu quelques exemplaires tout à l'heure. Pour ce qui concerne la couverture d'abord, dans la série habillée de cinéma que j'évoquais tout à l'heure, aucune image ne vient troubler la pureté de la couverture. Avec les histoires du cinéma, eh bien, une illustration est obtenue donc en couverture, appuyée. La décision de mettre une illustration, a été appuyée par un précédent en fait, qui était un livre de Claudel. Bon, reste que c'est seulement la troisième fois dans l'histoire de la collection blanche que une image vient orner la couverture de cette collection. Donc la première occurrence, c'est le Paris de Ramu en 1939. La deuxième occurrence, c'est L'œil écoute de Claudel en 1946. Et donc, enfin, les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard. Surtout, avec ce livre, s'impose un régime de composition et un régime de lecture tout à fait singulier dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de l'édition. Sur ce régime, le directeur artistique de Gallimard, donc Jacques Maillot à l'époque, témoigne en expliquant la mise au point d'un langage spécifique mêlant intimement, dès le départ, les images et les mots. Je cite un tout petit passage. « J'ai tout de suite compris, dit-il donc, que cet ouvrage était une véritable œuvre. » Dans le contexte, en fait, il faut comprendre que pour le directeur artistique en question, eh bien, Godard est arrivé avec une œuvre faite d'avance et qu'il s'agit simplement de traduire dans le format donc, de la collection blanche, dont il serait entièrement l'auteur et pour laquelle il faudrait trouver des solutions pratiques correspondant à l'originalité du projet. Ni un livre illustré, ni un livre de cinéma au sens classique, mais une œuvre écrite avec des mots, des images, des blancs, des espaces typographiques. J'arrête la citation. Pour conclure, je n'ai pas parlé, donc il y a quelques objets dont je n'ai pas du tout parlé. Je pourrais m'en expliquer le cas échéant, avec donc les bandes-paroles du Petit Soldat. Et puis cet objet donc, qui est très très intéressant, mais qui n'est pas spécialement un travail de Godard, mais plutôt un travail de Macha Merrill. Bon. En conclusion, par conséquent, j'ai voulu insister sur le fait que les différentes sortes de publications des films de Godard s'inscrivent dans différentes pratiques et traditions littéraires et éditoriales qui sont toutes en transformation, qui sont toutes en expérimentation au moment où Godard commence à travailler. De nouveaux modèles s'éprouvent, parfois très éphémères, pour tester non pas des transcriptions, mais bien des hybridations très complexes souvent. C'est donc dans une sorte d'intersection, dans une sorte de carrefour que s'inscrivent les publications qui m'ont ici occupé. À cet égard, ce qui me semble le plus intéressant, c'est l'absorption du film, du cinéma, mais peut-être aussi du filmique par des techniques de mélange des langages qui programment une combinaison des usages aussi de la lecture. L'écriture manuscrite et polymédiatique de Godard, combinant le signe et l'image, l'alphabet et la figuration, disant donc et faisant la plasticité des œuvres, d'une part, et donc d'autre part le travail éditorial qui s'organise autour de ces films, qui me semble également très intéressant et qui génère une poésie très personnelle. Je vous remercie de votre attention.